Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. L'Afrique noire n'est pas mal partie, elle n'est pas partie du tout pire, elle est dans le mauvais sens. Le continent berceau de l'humanité demeure aujourd'hui le seul dont les mers restent en permanence tendues vers l'aide extérieure. Et quand on procède à une analyse objective et du drame du continent noir, on se rend compte que la cause de son mal est d'abord et avant tout politique. C'est ce qu'on peut lire à la quatrième de couverture de Togo, la stratégie, à la tragédie pardon, africaine, ouvrage écrit par Maître Jean Yaouvi Deglé, avocat togolais, ancien ministre délégué chargé des relations avec le Parlement de transition, président du mouvement Bâti le Togo. C'est bien sûr l'homme qui a répondu à notre invitation. Et ce matin, nous allons bien sûr discuter alors des sujets liés à l'actualité. Maître, bonjour. Maître, bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà, il semble que votre micro, votre niveau, voilà, je pense que ça va maintenant. Maître, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à Canal FM. Bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices.
D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Maître, et je le disais, nous allons faire un clin d'œil alors à ce livre que je viens alors de citer. Et votre ouvrage, bien sûr, Togo, la tragédie africaine. On en parlera dans cette émission. Et nous allons questionner en quelque sorte notre processus démocratique au cours alors de cette émission, sans oublier quand même l'actualité. Nous allons parler de l'actualité. Je sais que vous connaissez bien dans ce débat et vous le faites bien aussi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je serai bien sûr avec mon confrère Firmette Kouabo. Firmette, bonjour.
Bonjour Pascal Ossou, merci de m'avoir invité.
Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Et pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou Vitok Betobega serait à la mise en onde, Jérôme Akuta à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takbamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM, nous sommes à Baga, près de Niamtougou, et puis Radio Courtoisie à Dabao. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Lébélé. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays et du continent africain et aussi du monde entier, et avec nos confrères aussi des invités tels que je vous le disais. Nous avons ce matin notre invité, c'est bien Maître Jean Yaouvi Deglé. Maître, bonjour. Maître, on fait un peu de digression dans cette émission, ou à l'entame alors de cette émission. On sait que le 14 février, c'est la date où est célébré l'amour. Déjà, vous, est-ce que vous y croyez toujours en l'amour, ou bien vous pensez plutôt que c'est un sentiment des adolescents ou des jeunes, ou bien vous y croyez?
Non, moi je crois en l'amour. Je crois profondément en l'amour. C'est la seule règle que le Seigneur Jésus-Christ a prescrite. Il y a toutes les lois qui avaient été faites avant son arrivée, et quand il a prononcé ces mots en disant « Je ne suis pas venu abroger, je suis venu accomplir », il a précisé que la loi la plus grande et celle qui domine toutes les lois, c'est la loi de l'amour. La loi de l'amour, pour moi, est fondamentale, et dans tous ses sens. Okay? Aussi bien l'amour agapé, aussi bien l'amour eros, aussi bien l'amour filial, l'amour est fondamental. Sans l'amour, en réalité, on ne peut rien faire. Et si l'amour nous domine, nous pouvons tout faire. Par contre, réduire l'amour à la journée du 14 février à la Saint-Valentin, qui, je crois, est beaucoup plus une fête commerciale, ne me paraît pas être la chose à laquelle j'adhérerais le plus. Mais je crois fondamentalement à l'amour.
Mais est-ce que vous avez l'impression que notre société vit l'amour aujourd'hui ?
Je n'ai pas l'impression que nous nous accordons l'amour autant qu'il le faut. Si nous l'accordons autant qu'il le faut, il y a des choses que nous ne ferons pas. Aussi bien au niveau des politiques qu'au niveau des citoyens eux-mêmes. Parce que quand vous aimez, vous savez, l'amour entraîne que l'on ne fasse pas aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on vous fasse à vous-même. Et que vous fassiez aux autres tout le bien que vous voulez qu'il vous fût fait à vous-même. Si ces deux éléments-là ne sont pas dans l'amour, votre amour est creux. Malheureusement, aujourd'hui, les gens disent on aime, même les gens qu'on aime sur le plan amour éros, c'est-à-dire amour-sentiment vis-à-vis d'une femme ou bien d'un homme avec qui on a une relation sentimentale, dès qu'il y a un petit truc, on se comporte vis-à-vis de la personne de la manière dont on n'acceptera jamais que cette personne se comporte vis-à-vis de nous. Donc j'ai de plus en plus l'impression que l'amour que nous avons aujourd'hui les uns pour les autres est beaucoup travesti. Et lorsque nous prenons les gouvernants politiques dans le monde, aussi bien chez nous qu'ailleurs, je dirais que cet amour qui est fondamental manque, parce que s'ils aiment vraiment leurs concitoyens, leur vis-à-vis, leurs compatriotes, s'ils considèrent que l'autre est toujours un autre moi-même, eh bien la manière de décider, la manière de gouverner, la manière de diriger sera différente.
Vous avez bien fait la transition puisque nous allons parler politique au cours de cette émission. Et je le disais, nous allons questionner aussi notre processus démocratique. Alors, c'est vrai, je lisais une phrase tout de suite ou bien tout un extrait tout de suite concernant la quatrième de couverture de votre ouvrage Togo, la tragédie africaine. Et l'Afrique noire n'est pas mal partie, elle n'est pas partie alors du tout, ou pire, elle est dans le mauvais sens. Alors, quand on prend le processus démocratique aujourd'hui, notamment de notre pays, le Togo, est-ce que nous avons mal décollé, maître?
Bon, merci beaucoup, monsieur Lossou. Avant toute chose, je voudrais qu'on remette le livre dans son contexte. C'est un livre qui a été publié en 1996.
Tout à fait.
En octobre 1996. Parce que quand vous en parlez, les gens ont l'impression que le livre a été écrit aujourd'hui, même si beaucoup pensent que ce qui se trouve dans ce livre répond exactement à la situation d'aujourd'hui. Donc c'est un livre qui a été publié au moment où j'étais encore en exil. C'est mes débuts, la quatrième année d'exil que j'ai publié ce livre-là, octobre 96. Relativement à notre parcours politique, je crois que nous sommes mal partis. C'est sûr, c'est clair. Et si nous végétons toujours, nous pataugeons toujours dans le un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, trois pas en arrière, c'est parce que nous sommes mal partis. Maintenant, est-ce que nous avons pris conscience du fait qu'au départ, les choses n'ont pas été faites, n'ont pas été bien faites, et nous sommes en mesure de les corriger pour pouvoir nous relancer? Je crois que c'est là se trouve la grande question. Sinon, nous ne sommes pas bien partis. Depuis notre période d'après-indépendance, avec tous les conflits qu'il y a, les difficultés que nous avons eues après le passage à l'Orient éternel, c'est-à-dire la mort, l'assassinat du premier président, le passage du général Eyadema, la mort du général Eyadema, l'arrivée du nouveau président. Je crois que quand vous voyez la situation du Togo, on a l'impression que c'est un perpétuel recommencement. C'est un perpétuel recommencement. Nous tombons, nous nous relevons, nous n'arrivons pas à avancer. Est-ce que le moment est venu d'avancer? Je l'espère.
D'accord, vous l'espérez. Mais maître, alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si tant est que vous dites que nous sommes mal partis.
Beaucoup de choses n'ont pas marché. D'abord, il faut se rappeler que les indépendances ont été toujours en conflit entre ceux qui ont voulu continuer de participer avec le colonisateur et ceux qui ont voulu que le colonisateur s'en aille, c'est-à-dire les indépendantistes et les contre-indépendantistes. Lorsque la lutte est venue au niveau du Togo, ça a été la même chose. Mais après les indépendances, nous n'avons pas eu le temps de construire la sortie de cette situation. Okay? Le président de la République de l'époque, Silvanus Olympio, aurait dû avoir le temps pour permettre au pays de sortir de cette situation, de recréer une situation de réconciliation nationale sincère qui aurait créé la nation, la notion de nation chez les Togolais. Vous savez, au moment de la lutte pour les indépendances et même à l'indépendance, ceux qui étaient les indépendantistes pensaient que ceux qui voulaient la collaboration doivent quitter le Togo. Une fois l'indépendance obtenue, doivent quitter le Togo. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu cette chanson « Minya français au Néwayi ». Minya français au Néwayi, a Les indépendantistes considéraient que ceux qui n'étaient pas pour l'indépendance, une fois l'indépendance obtenue, ils n'ont qu'à accompagner les Blancs. Et cette situation de conflit a existé. Une partie a été entre les pro-Grunitzky et UCPN, l'Union des chefs et populations du Nord, et les pro-CUT, le pro-Sylvanus Unipio. Et puis, après, il y a eu aussi une situation de conflit ethnique, conflit Nord-Sud dans notre pays. À un moment donné, il aurait fallu qu'on arrive à réconcilier ce pays avec lui-même, à créer un véritable creuset dans lequel tout le monde essaye de se fondre. On n'a pas pu. Et nous avons évolué. Le général Yadema avait tenté le coup avec le RPT. Malheureusement, ça n'a pas marché. Parce qu'à un moment donné, ils ont perdu de vue l'essentiel. Ça n'a pas marché. Et puis, nous sommes arrivés à la conférence nationale en espérant qu'au sorti de cette conférence, nous aurons cette réconciliation nationale qui est indispensable pour le vivre ensemble et qui créerait la nation togolaise en tant que telle. La conférence est passée à un moment donné d'une façon telle qu'on a raté le coach. Et puis, Yadema est décédé et Faure est arrivé. Il a mis en place la CVJR.
Oui.
On a pensé aussi qu'avec les résultats de la CVJR, on finirait par créer cette réconciliation nationale et qu'on sortirait définitivement d'une situation qui nous tire vers le bas. Une fois encore, la CVJR a terminé ses travaux, mais on n'a pas été jusqu'au bout de la logique de la CVJR. Et donc, nous sommes restés dans cette situation où il y a une incompréhension permanente qui mine ce pays. Et quand on me parle aujourd'hui de nation, je dis, le Togo n'a pas encore réussi à créer une nation. Hein. Nous ne l'avons pas encore. L'esprit de nation, nous devons nous battre pour l'avoir un jour. Et quand on l'aura un jour, on pourra faire mieux.
Vous croyez qu'un jour, nous l'aurons vraiment ?
On peut l'avoir.
En quoi faisant ?
Je crois que la conférence nationale aurait pu nous permettre de l'avoir. Si les choses s'étaient passées telles que ça s'est passé au Bénin. Vous savez, quand vous allez chez les Béninois aujourd'hui, beaucoup vous disent qu'ils considèrent Kélékou comme le père de la nation. Hubert Maga est le père de l'indépendance. Et Kélékou est le père de la nation. Pourquoi ils disent ça ? Parce que la conférence nationale, avec la manière dont Kélékou a adhéré, a fait que les Béninois se sont retrouvés dans un creuset à un moment donné. Ils se sont retrouvés ensemble.
Et ce n'est pas le cas au Togo.
Ils se sont réconciliés les uns avec les autres. Et c'est ça qui leur a permis d'avoir aujourd'hui cette idée de vivre ensemble qui perdure. Les Togolais n'ont pas réussi à faire ça. La conférence nationale s'est terminée en queue de poisson, avec des incompréhensions d'un côté comme de l'autre. Le camp du général Yadema n'ayant pas accepté un certain nombre de choses qui se sont passées. Et réellement, des choses qui se sont passées qui, quelquefois, auraient heurté un simple individu comme moi aussi. Et donc, nous n'avons pas réussi à créer la réconciliation nationale pour se vivre ensemble. Avec la CVJR, l'occasion nous avait encore été donnée. On aurait pu le faire. La CVJR, tous ces résultats qui sont sortis, on ne les a pas utilisés. En fait, je crois qu'on a fait la CVJR, elle a donné ses résultats, et puis on a mis ça de côté, on a continué notre chemin.
Maître, il y a le H-Krone qui est en train alors de mettre en application les recommandations de la CVJR aujourd'hui.
H-Krone ne met pas en application toutes les revendications, toutes les recommandations. Le H-Krone met en application les recommandations concernant les réparations. Les réparations. OK ? Et surtout, les réparations matérielles. Or, ce n'est pas ça seulement. La CVJR contient beaucoup de choses qui ont pris en considération tous les problèmes que le Togo a eu depuis les années 50, c'est-à-dire les années de colonisation, de mandat français, jusque à la fin du régime de Yadema. Okay? Et au début, avec les problèmes qui sont posés, quand le président Faure est arrivé, les tueries qu'il y a eu, tout ça, elle a pris tout ça et elle a essayé de trouver des mécanismes, des solutions qui nous permettent de pouvoir vivre ensemble. Mais ça n'a pas été mis en place. Je prends tout un petit exemple.
Okay.
Quand vous prenez notre justice aujourd'hui, tout ce qui a été prévu par la CBJR, la moitié n'a pas pu être mise en place. Quand vous prenez la chefferie traditionnelle, tout ce qui a été prévu par la CBJR n'a pas pu être mis en place. Quand vous prenez le domaine politique, okay, le régime politique, la séparation des pouvoirs, tout ce qui a été prévu par la CVJR n'a pas pu être mis en place. Donc, la CVJR ne peut pas être réduite au H-Cool. Nous avons encore besoin d'avoir cette volonté-là, de créer l'esprit de nation, l'esprit du vivre ensemble véritablement, et puis de faire en sorte que ce pays sorte de cette situation que j'appelle l'ornière dans laquelle nous sommes. Et je crois que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui peuvent le faire. Quand moi j'étais à l'étranger, quand on a mis la CVJR en place, je suis revenu la voir, et je suis intervenu à la CVJR, j'ai apprécié, j'ai vu tout ce qui était prévu, je me suis dit, et le fils du général va réussir ce que son père n'a pas pu réussir avec le RPT. La création du RPT était quelque chose d'important avec le livre vert qu'il avait. Et Yadema voulait véritablement mettre tout le pays dans un creuset. Quand il disait regarder dans la même direction et tout ça, c'était l'esprit de réconciliation nationale. Bon, malheureusement, très tôt, le pouvoir a grisé ses pratiquants. Très tôt, le pouvoir est parti dans son aspect juicif. L'aspect juicif a embobiné ceux qui gouvernaient et ils ont laissé l'essentiel. Ils ont laissé la proie pour l'ombre. Donc, ils n'ont pas pu finalement réussir. Si vous vous imaginez que en 1967, Yadema disait qu'il faut aider le pays à sortir d'une situation de guerre civile. 24 ans après, à la veille de la conférence nationale, il disait encore qu'il faut aider le pays à sortir d'une guerre civile. Ce qui veut dire qu'il n'a pas réussi. Mmh. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, on peut encore. L'essentiel, c'est qu'il y ait la volonté.
D'accord. L'essentiel, c'est qu'il y ait vraiment la volonté politique. Maître, c'est vrai que vous parliez entre-temps lors de la conférence nationale et vous avez fait la comparaison même d'ailleurs par rapport à cette conférence nationale au Bénin et qui a réussi bien sûr, mais chez nous finalement ça a capoté. Et je discutais avec un ancien observateur bien sûr de la vie politique tout récemment qui me disait que mais ce qui a fait que la conférence nationale a capoté au Togo, c'est parce qu'il y avait trop d'intellectuels lors de cette conférence. Est-ce que vous partagez le même avis?
La conférence nationale béninoise a réuni essentiellement des intellectuels. Mais ils n'ont pas joué le rôle d'intellectuel taré, comme disait Kérékou. Ils ont joué le rôle d'intellectuels qui ont compris qu'il y a un intérêt de leur pays à tout ce qu'ils étaient en train de faire. Vous savez, une des premières choses qui a manqué aux Togolais, c'est qu'ils n'avaient pas d'anciens hommes politiques d'envergure capables de canaliser les choses. Au Bénin, on avait à la conférence nationale 4 anciens chefs d'État. Hubert Maga, Ahmad Dibé, Apiti et Zinsou. Lorsque les jeunes, qui se disaient les communistes à l'époque, ont commencé à élever le ton, à dire qu'il faut faire ci et ça, les anciens chefs d'État sont intervenus en disant « Vous ne savez pas comment on gouverne un État. Vous ne savez pas ce que c'est que la direction d'un État. Si vous faites ce que vous faites là, vous nous menez tout droit dans l'abîme. » Et le respect que les gens ont pour ces chefs, ces anciens chefs d'État, a fait que tout le monde s'est mis à carreau. On a été à l'essentiel. Et même le général Mathieu Kérékou a accepté les fruits de cette conférence nationale, alors que les gens qui l'entouraient, les Azonhiro et autres, lui disaient « Tu ne dois jamais accepter cela. » Il a fini par accepter. L'avantage qu'ils ont, c'est ça. Ils ont eu également un prélat qui avait l'envergure d'un homme politique, Monseigneur de Souza. Nous n'avons pas eu cette chance-là non plus. Et le dernier élément, c'est que nous avons eu des intellectuels venus pour la plupart de l'Occident qui ne savaient pas ce que nous avons vécu à l'intérieur du pays jusqu'à ce que Yadema accepte tout ce qu'il a accepté, la lutte qu'on a menée avec lui, la façon dont on a discuté avec lui pour le convaincre de ce qu'il y a lieu de faire, ceux qui ne savaient pas ça, qui sont revenus, qui ont cru que bon, ok, le pays est libre aujourd'hui, on peut se permettre n'importe quoi, et qui nous ont poussé un peu dans cet abîme que les Béninois ont évité. Donc, ce ne sont pas seulement des intellectuels. C'est des gens qui ont réussi parce qu'ils ne connaissaient pas véritablement la situation et qu'ils étaient pressés, qui ont réussi à pousser les populations dans un sens et qui ont entraîné avec eux un certain nombre de personnes aussi. À côté, il y avait des intellectuels dans cette conférence nationale qui avaient toujours gardé leur position. Par exemple, quand vous prenez le phare dont nous étions membres, avec Agbo Ibo à la tête, avec les Kofi Go et autres, la manière dont nous avons négocié avec Yadema pour arriver à la conférence nationale, en montrant très bien au chef de l'État que nous n'avons aucun intérêt et notre volonté n'est pas de le tuer, mais de l'amener à composer avec nous et tous les Togolais pour que nous puissions ensemble aller de l'avant, que nous puissions réaliser la réconciliation nationale. C'est ça que nous avons fait comprendre à Yadema. Les gens sont venus en commençant à la conférence à lui dire « Tu vas voir ce que tu vas voir bientôt, nous allons t'arrêter. »
Il parlait même d'ailleurs de son procès qui a été fait.
Oui, mais bien évidemment. Vous savez, quelqu'un qui a gouverné le pays à l'époque pendant 24 ans, qui avait une armée qui est à sa solde, vous commencez à lui dire ce genre de choses, il va se braquer. Moi, je me rappelle encore quand on a discuté avec Yadema pour qu'il donne l'amnistie qu'on allait voter à l'époque aille dans le sens d'intégrer Gilchrist Olympio. Au début, Yadema n'avait dit jamais. Il avait dit jamais que non, qu'on ne peut pas amnistier Gilchrist Olympio, que lui, il cherche à le tuer. Donc, quand il va revenir demain au pays, il va vouloir le tuer. Et je me rappelle, j'ai pris la parole en lui disant, mais monsieur le président, si vous donnez l'amnistie aux gens, l'amnistie sur le plan politique, et que vous ne donnez pas cette amnistie-là à Gilchrist Olympio, vous n'avez rien fait. Parce que la personne qui, par excellence, représentait à l'époque l'opposition à votre personne, le conflit avec votre personne, et donc avec une partie de la population togolaise qui vous suit, c'est Gilchrist Olympio. Et je lui ai dit, nous avons mis Gilchrist Olympio à la tête de ceux pour qui nous voulons obtenir l'amnistie parce que nous y croyons. Et il m'a dit, mais oui, il m'appelait mon fils, ou quelquefois mon ami, mais oui, comment on va le faire? J'ai dit non, nous allons parler avec Gilchrist Olympio, monsieur le président. Quand il viendra, Gilchrist Olympio ne viendra pas pour faire la guerre avec vous, il viendra pour que nous fassions ensemble la paix. Et la frontière togolaise était fermée. Nous avons dit à Yadema, Gil étant revenu entre-temps à Accra, nous avons dit à Yadema, nous voulons partir parler avec Gil pour que ce que nous vous proposions puisse être. Yadema a dit, ok, je vous ouvre la frontière. Il a mis un véhicule administratif à notre disposition. On est parti chez Gil à Accra. J'étais avec Kofi Go et Abouti Kinikini. Nous étions les trois. On a été chez Gil au Ghana. À l'époque, Gil ne pouvait pas approcher la frontière du Togo. On a été chez lui. On a campé chez lui. On a essayé de le convaincre. Lui aussi, il était difficile à convaincre. Il ne pensait pas pouvoir revenir au Togo. Mais bon, moi, j'avais un peu l'avantage avec Gil qu'il connaissait mon père, qui a été secrétaire général du parti de son père à Kpalimé, il connaissait mon oncle, qui était un des membres influents de la Juvento. Et il m'a pris à part, il m'a dit, mais est-ce que tu crois? J'ai dit, mais il faut Gil, tous les coups de fil que tu m'as donné à l'OMETU, c'est pourquoi? Je t'ai expliqué ce que nous voulons faire. Et finalement, le dernier jour, Gil nous a appelé le matin au petit déjeuner pour nous dire qu'il était d'accord pour venir et pour faire la paix avec Yadema. Vous voyez, c'était tout un tas de tractations
tout à fait.
Où on essayait de mettre chacun en confiance. Et c'est ce que nous avons fait. Et Gil est revenu. Je fais partie de ceux qui ont obtenu son retour. Mon père a organisé son arrivée, son meeting à Kpalimé. Il est revenu, il a été bien accueilli. Mais pendant le même temps, on avait des gens qui ont pensé qu'une fois à la conférence nationale, il fallait transformer la conférence nationale en une tribune, ce qui était complètement contraire au processus que nous avons adopté avec le pouvoir en place pour arriver à la conférence nationale. Et lorsque le phare s'est dissous, et Yadema était très déçu, il a appelé à Bouibou et dit, mais qu'est-ce que vous me faites? Bouibou est venu nous dire, mais il dit, mais attendez, vous me mettez entre les mains des loups, je ne connais pas les autres, c'est vous que j'ai connu, c'est avec vous que j'ai négocié. Mais pourquoi vous me faites ça? Il n'a pas du tout apprécié parce qu'il considérait que le phare étant l'organe par excellence de négociation, si on gardait le phare, on serait capable de jouer l'effort tampon pour éviter un certain nombre de choses. Et malheureusement, le phare a été dissous, le phare s'est sabordé, et à la conférence nationale, on a vu tout ce qu'on a vu, et le camp présidentiel RPT et Yadema militaire s'est braqué, et donc la conférence a fini.
D'accord.
Ça n'a pas donné de réconciliation
nationale. Justement, ça n'a pas donné de réconciliation nationale. Oui, mais vous avez une question pour Mendegli.
Mendegli, dans les années 80, est-ce que vous connaissiez déjà Yadema?
Dans les années 80, je n'ai jamais approché Yadema. Je le connaissais comme, je disais, bon, moi je suis né en 63, au moment où on assassinait justement Silvanos Olympio, et mon père était en prison quand je suis né. Je le connais comme le président que j'avais en face. Ok, j'ai grandi en voyant cet homme comme président, et je l'ai vu à un moment donné dans une envergure de quelqu'un que les gens appréciaient beaucoup. En tout cas, à qui les gens faisaient
des éloges,
beaucoup d'éloges. Ok, c'est comme ça que je l'ai connu. Avant de connaître les dérives du pouvoir, c'est comme ça que j'ai connu Yadema. Je me rappelle en 69, quand il était venu à Palimé le 30 août faire l'appel historique pour créer le RPT et mettre tous les Togolais dans un creuset, j'étais au stade. J'étais tout petit. J'étais au stade, 6 ans à l'époque. Mais j'étais au stade, j'étais élève, j'étais au stade. Je l'ai écouté. Et j'ai connu l'homme à distance de cette façon. Ok ? Jusqu'à ce que j'arrive à l'université. Et en ce moment déjà, le régime commençait en tout cas à montrer beaucoup de défaillances sur le plan de ce qui était prévu, notamment par le livre vert du RPT, l'entente, la cohésion, tout ça. On avait l'impression que ce qu'on craignait avant, ou bien ce qu'on voulait refuser, est encore arrivé, c'est-à-dire c'est ceux qui sont dans le parti qui gouvernent, c'est eux qui ont tout et les autres n'ont rien. Bon, maintenant, après, j'ai eu à discuter avec Yadema. Mais jusque-là, je n'avais pas connu Yadema autrement. Je me rappelle quand j'étais arrivé à l'université, étant un des meilleurs au bac, mais on ne m'avait pas donné de bourse, j'ai demandé une audience au général Yadema, que j'ai été voir à la présidence, en disant, mais je suis un enfant de pauvre, j'ai été l'un des meilleurs au bac, et je n'ai pas eu de bourse. Et il m'a dit de revenir le voir dans quelques jours. Malheureusement, quand j'étais reparti, on m'a empêché de le voir. Notre rencontre s'est limitée à ça. C'est-à-dire, j'ai vu Yadema en 82, directement comme ça, en étant chez lui au bureau. Le reste, je l'ai vu dans des meetings, je l'ai vu à la télévision, pas autrement. Et donc, c'est après ça que je le connaîtrai et que c'est surtout au moment de discuter avec lui que je dirai que j'ai connu l'homme. Parce que, un peu, quand on a commencé les mouvements en 90, il m'avait à un moment donné appelé à la présidence quand il a compris que c'est moi qui avais rédigé la déclaration des avocats du 10 octobre qui demandait la démocratie au Togo avec une conférence nationale et tout ça. Et il m'avait dit que non, qu'il voulait que je travaille avec lui. Bon, nos discussions n'ont pas abouti à ce que je puisse travailler avec lui, mais nous avons eu une discussion. En tout cas, il a beaucoup parlé, je l'ai écouté. Et quand je suis parti, moi j'ai continué mon chemin. Et la deuxième fois qu'il m'a appelé, c'est là où il s'était fâché. Il a dit que non, qu'il n'est pas un escalier. Si je le cherche, je vais le trouver. Et c'est là où il a tiré son tiroir et sorti son pistolet pour taper sur la table. Bon, on en était là quand les mouvements ont pris de l'ampleur et qu'il a fallu qu'on discute. Mais on a discuté dans le cadre du phare avec le Fonds des associations pour le renouveau, avec Agbo Ibor, Kofigo, les étudiants, Zeus Ajavon qui était avec nous, tous ensemble. On a discuté avec lui. Et c'est là où, véritablement, j'aurai
un contact direct avec le président. Parce que maître, justement, à la suite alors de cette question, aujourd'hui, c'est vrai, Yadema, vous l'avez connu, et c'est pratiquement 38 ans, lors de règne, 38 ans au pouvoir. Si vous êtes donné aujourd'hui de faire un bilan de ce règne alors de Yadema, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Non, je crois que Yadema, comme je disais dans mon rapport général de la conférence nationale, je disais que, à l'époque, c'était 24 ans. Je disais que les Togolais sont très fâchés et ils considèrent que non, que Yadema n'a rien fait, que tout ce qu'il a fait est négatif. Mais que 24 ans de règne ne peuvent pas être que de fruits négatifs, que je ne crois pas ça. Et que lorsque nous aurons l'esprit beaucoup plus calme, nous saurons remettre en place ce que le régime a fait de positif et ce qu'il y a de négatif. Vous savez, Yadema a fait des choses qui sont positives. La TDE que nous avons aujourd'hui, ce qui est la Régie des Eaux, c'est Yadema qui l'a créée, hein. C'est Yadema qui l'a créé. À l'époque où Yadema gouvernait et où, je dirais, au début du règne de Yadema, le boulevard que vous avez là, les gens dormaient au bord du boulevard, les gens dormaient sur le boulevard, les gens garaient leurs grands véhicules, les gens, ceux qui faisaient les grandes remorques, les titans, ils venaient et dormaient avec leur argent en poste, personne ne les touchait. Il y avait une situation de sécurité quand même au Togo qui était palpable, une situation de sécurité pas seulement pour le régime à l'époque, sécurité pour le régime et pour les citoyens. Et ça, c'était quelque chose que Yadema a réussi à mettre en place. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de difficultés. On a l'impression que les citoyens sont de plus en plus laissés de côté quand il s'agit de cette sécurité-là. Mais à l'époque, cette sécurité, les Togolais en bénéficiaient et les Togolais dormaient tranquillement. Bon, il y a autre chose. Nous parlons de la CEDEAO. Même si la CEDEAO était une idée de Silvano Olympio depuis 1961, qui était un de ses projets pour l'intégration sous-régionale avant qu'il ne meure, c'est Yadema qui a eu le mérite de relancer l'idée, cette idée-là, de reprendre le projet de Silvano Olympio, qu'on peut considérer comme étant quelqu'un à qui il était opposé, parce que c'est par eux que Silvano Olympio a été assassiné. Mais il a repris ça, et nous avons la CEDEAO aujourd'hui, même si des gens en sortent aujourd'hui. La CEDEAO est ce qu'elle est, hein, et c'est un élément très important. Il y a un certain nombre de petites choses comme ça que Yadema a réussi à mettre en place. On ne peut pas le lui nier. Il faut à César ce qui est à César. Yadema, son régime, est considéré par beaucoup comme étant en grande partie négatif. Mais il n'y a pas que du négatif. Il y a aussi des choses positives qui ont existé. Il faudrait les remettre à leur place.
D'accord.
Oui, si vous le permettez, maître, en lisant votre livre, à la page 106, vous avez dit, en effet, le général président avait toujours été un homme chanceux pour qui tout avait bien marché jusque-là. Ceux qui connaissent le parcours de cet homme, parti de rien pour devenir tout, en savent quelque chose. Mais c'est aussi l'un des rares chefs d'État africains à avoir été porté très haut par son peuple, malgré les défauts du système qu'il incarnait. Alors, la question que je voudrais poser, est-ce que les gens l'ont véritablement porté?
Non.
Vous écriviez ce livre en 1996.
J'ai écrit en 1996.
Au temps chaud de la dictature.
Les gens ont porté Yadema à un moment donné. Vous savez, un peuple, on peut le manipuler, mais aussi il peut croire à quelque chose. À un moment donné, surtout après ce qui s'est passé en 1974, avec cette histoire d'attentat de
Sarakawa,
avec le fait que Yadema a été celui qui a supprimé l'impôt de capitation. Ok ? L'impôt de capitation qui terrorisait les gens.
C'était quoi l'impôt de capitation ?
L'impôt de capitation, c'est l'impôt qui était payé par tête. Et on demandait à chacun de payer. Mmh. On allait dans les villages, si les jeunes ne payaient pas, on les arrêtait. Et ils étaient obligés de fuir sur les champs pour échapper à ceux qui viennent collecter l'impôt de capitation. C'est vrai ? Après, on nous a fait comprendre que l'impôt de capitation générait beaucoup plus de dépenses que de recettes. C'est-à-dire ce qu'on payait pour aller collecter l'impôt est beaucoup plus important. C'est à cause de ça qu'il fallait l'arrêter. Mais c'est Yadema qui l'a arrêté. Et quand on a fait ça pour les paysans, mais c'était quelque chose qui impressionnait les gens. Pendant la même période, avec la nationalisation de la CTMB, la Compagnie Togolaise des Mines du Bénin, qui est aujourd'hui la SNPT, on a augmenté de 25% pendant 2 ans les salaires des fonctionnaires. Vous pensez que des gens à qui on a fait ça vont mépriser celui qui le leur a fait? Je ne crois pas qu'ils aient méprisé. Je ne crois pas. Je viens d'une maison fondamentalement du culte. J'ai vu la réaction de mes parents par rapport à ces choses. J'ai vu la réaction de différentes personnes par rapport à ces choses-là. Quand quelqu'un aussi mauvais soit-elle vous fait quelque chose de bien, vous appréciez. Que ça, au moins, c'est du bien. Et la population, une bonne partie des Togolais, ont apprécié. Les gens qui ont chanté Yadema, tous n'ont pas été juste des gens manipulés. Il y a des gens qui croyaient.
Ils le faisaient avec conviction.
Des gens qui croyaient. Ils le faisaient en croyant que, effectivement, ce type est ce que nous lui chantons. Bon, maintenant, il y a l'autre revers de la médaille. Il y a l'autre face de Janus que les gens découvriront progressivement. Mais dans l'euphorie, dans l'enthousiasme de cette époque, de cette histoire de nationalisation, de refus de concéder la CTMB en totalité aux Blancs et de gagner quelque chose pour les Togolais, les gens ont cru que cet homme était un petit demi-dieu pour eux. Et ils l'ont porté. Ils l'ont porté.
D'accord, maître, c'est vrai que... Oui, mais non, on va avancer.
Pas tous les Togolais, mais les Togolais ont porté ce monsieur.
D'accord, maître, c'est vrai que en prenant le pouvoir en 2005, le président Faure Gnassingbé disait que lui c'est lui et moi c'est moi, et ce qui veut dire tout simplement que allez, c'est vrai, le règne du père est passé, 38 ans on l'a connu, et 20 ans maintenant du fils, c'est-à-dire de Faure Gnassingbé. Quel est le bilan que vous établissez aussi sur ce point?
Je n'ai pas pensé au bilan de Faure Gnassingbé avant de venir sur le plateau. Mais je crois que Faure Gnassingbé fait ce qu'il peut. Ok ? Moi, il y a quelque chose que j'ai apprécié, que j'ai dit dès que je suis arrivé dans le pays, que je suis revenu définitivement au Togo en 2012, parce que là, à partir de fin 2008, on m'a permis de revenir, mais j'allais, je revenais. Je me suis installé définitivement en 2012. J'ai dit que Faure Gnassingbé posait des actes que je considérais que son père aurait dû poser déjà, et lui devait faire la suite, par exemple, construire nos routes, c'est fondamental. Et ça, Faure Gnassingbé aurait pu ne pas le faire non plus lui aussi, mais je vois que Faure a compris que la route du développement passe par le développement des routes. C'est un acte qu'il faut mettre à son crédit. Il y a d'autres choses que Faure Gnassingbé a essayé de faire. Il y a, je dirais, un certain nombre de petites choses qui sont aujourd'hui à l'avantage de ce régime et d'autres qui sont de grandes réalisations. Okay? Sur le plan des infrastructures, je crois que le Togo a fait beaucoup d'efforts. Il faut le reconnaître. Il faut donner à César ce qui est à César. Aujourd'hui, moi, je m'occupe des jeunes. J'ai une association qui scolarise les jeunes. Mais les difficultés que les jeunes que je scolarisais avaient au début pour avoir le certificat de nationalité, même quelquefois le certificat de naissance, c'était terrible. Aujourd'hui, ces choses-là n'existent plus. On a essayé de régler ces problèmes. Il y a tout un tas d'autres choses comme ça, aussi petites comme aussi grandes. Petites peut-être pour nous, mais grandes pour le pauvre paysan qui n'a eu que ça. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Il y a cette volonté-là de faire un développement inclusif, même si ça ne porte pas encore tous ses fruits. C'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose d'important. J'ai vu des femmes de chez moi, de Palimé, de mon quartier, recevoir ce petit pactole-là qu'on leur offrait pour leur commerce, et j'ai vu comment elles s'en réjouissaient. C'est des choses. Maintenant, de l'autre côté, il y a ce qui ne marche pas. Il faut arranger ce qui ne marche pas. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain, rejeter ce qui marche. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui avancent. Il faut faire en sorte que tout avance. Il faut faire en sorte que la CTMB d'hier, qui est la SNPT aujourd'hui, mette de l'argent dans le compte de l'État au budget. Moi, j'ai appris la fois dernière que ces institutions, que le port ne mettait pas assez d'argent dans notre budget.
Un milliard.
Je tombais des nues. Ce n'est pas normal. Il y a des choses qu'il y a lieu de régler. Il y a des choses qui sont en train d'être faites. Il faut féliciter pour ce qui est fait et continuer de demander, de lutter pour que ce qui n'est pas encore fait.
D'accord. Oui, mais maître, c'est vrai que on a connu également en 2024 ce changement alors de constitution, et je connais un peu aussi votre position alors sur la question, puisque déjà en avril vous avez animé, même aussi avec d'autres organisations de la société civile, vous avez animé en avril dernier, bien sûr, vous avez animé une conférence sur le sujet. Mais maître, revenons un peu alors sur cette position. Qu'est-ce que vous pensez alors de ce changement de constitution?
Je ne sais pas si j'ai animé des débats sur la conférence. On m'a appelé à une conférence.
Tout à fait.
Où je suis intervenu pour parler un peu. J'ai parlé surtout du processus. Vous savez, une constitution ne développe pas un pays. Une constitution ne crée pas des emplois, ne donne pas du bien-être, ne protège pas l'intérêt général. Parce qu'une constitution, elle ne peut impacter une population que dans son application. Et quelle que soit la constitution, peu importe. Il y a des pays qui ont vécu sous la dictature. Hein. La Corée du Sud a vécu sous la dictature, mais c'est sous la dictature qu'elle s'est développée. La Chine n'est pas aujourd'hui un pays démocratique, mais elle se développe. D'autres pays dans le monde sont comme ça. Le développement ne vient pas de la constitution. Le développement vient de la volonté, de la vision des dirigeants. Ok ? La constitution qui a été mise en place, ou bien qui est mise en place aujourd'hui, je dirais que ne l'ayant pas vue en application, je ne peux pas tellement en discuter chez nous. Ok ? Il faut que je vois la mise en œuvre chez nous. Par contre, le processus par lequel cette constitution a été adoptée est un mauvais processus. Cette constitution aurait dû être adoptée par référendum. Un point, un trait. Ça n'a pas été fait, c'est une mauvaise chose. qu'on me dise que l'Assemblée qui était là à l'époque avait le droit, avait le gauche, avait quoi que ce soit pour adopter. Je dis, c'est mauvais le processus. Maintenant, la Constitution est déjà en place. Nous l'avons. Nous ne pouvons rien. Elle est la Constitution qui régit le pays aujourd'hui. Nous devons faire avec. Comment pouvons-nous tirer des éléments de cette Constitution pour faire avancer notre pays? C'est ça qui doit nous préoccuper.
Maître, est-ce que ça veut dire que les contestations, et même d'ailleurs il y a un front qui a été créé même pour cela, et touche pas à ma constitution, est-ce que ça veut dire que déjà toutes les actions lors de ce front et même d'ailleurs d'autres organisations de la société civile et aussi des partis politiques n'aura pas d'effet?
On ne peut pas empêcher les gens de protester contre quelque chose. Ok? On ne peut pas les empêcher de rejeter quelque chose, surtout quand je parle de la manière dont les choses ont été faites. Vous savez, on aurait été à un référendum que ceux qui contestent aujourd'hui auraient été battus. Ils ont dit, on s'en a été battus. Mais le fait de ne pas soumettre l'idée à discussion d'abord, ensuite de ne pas la soumettre à la volonté populaire, c'est ça qui fait que les gens sont braqués. On ne peut pas empêcher ceux qui n'acceptent pas de contester. Je me battrai même pour qu'on puisse leur permettre de continuer à dire ce qu'ils pensent. Mais cela étant, cette constitution, elle est déjà là. Pendant que les gens se battent, elle est déjà là. Est-ce qu'on va simplement se contenter de se battre et oublier, en quelque sorte, laisser la proie pour l'ombre? Elle est là. Elle va avancer. Est-ce qu'on va se mettre dans la contestation, et laisser le reste être fait par peut-être d'autres qui n'auraient pas eu les idées que nous autres nous avons et que nous aurons pu faire passer à travers cette constitution. Je crois qu'il faut laisser ceux qui contester, mais il faut savoir que cette constitution existe déjà. Et vous savez comment les choses se passent au Togo. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour changer encore cette constitution. Un autre élément que je trouve important, c'est que cette constitution, elle a été mise en place par des gens qui ont contesté pendant longtemps l'ancienne constitution, qui ont dit que l'ancienne constitution empêchait de gouverner. Mais aujourd'hui, ils ont mis en place une constitution eux-mêmes. Est-ce qu'ils peuvent encore nous dire demain que cette constitution les empêche de gouverner, les empêche de faire du bien au peuple, les empêche de développer le bien-être, de faire prévaloir l'intérêt général? Personne ne peut plus dire ça. En tout cas, de la part de ceux qui ont mis cette constitution en place, je ne vois pas un seul qui peut encore me dire ça. C'est eux qui ont mis la constitution en place. Donc nous attendons que cette constitution leur permette, à partir de maintenant, de faire tout ce qu'ils n'ont pas pu faire hier et qu'on a mis sur le dos des anciennes constitutions. Donc j'attends que le Togo se développe rapidement. J'attends que le Togo devienne un pays moderne. J'attends que le Togo se projette sur le plan international comme un pays extraordinaire. C'est tout ce qu'on nous a dit. Et moi, j'attends ça. Parce que la Constitution, c'est celle qu'ils ont voulu. Et c'est celle qui est entre leurs mains. C'est celle à laquelle nous sommes soumis aujourd'hui. Nous sommes tous soumis aujourd'hui. Et nous espérons que cela nous donnera quelque chose qui va permettre au Togo de se relever de cette.
D'accord. Alors, maître, comment vous appréciez l'attitude alors de l'opposition par rapport justement à ce processus? Et est-ce que peut-être vous avez l'impression que l'opposition est en train alors de faire peut-être encore des erreurs?
L'opposition fait l'opposition. Voyez, on ne peut pas l'empêcher de faire l'opposition. Mais moi, personnellement, si je dois donner un point de vue sur le fait que certains aient décidé de ne pas participer à l'Assemblée après les élections, je dirais que c'est une erreur. Et j'ai tout un tas d'éléments pour faire d'analyse dans ce sens-là. Je dirais que c'est une erreur. Je n'étalerai pas toute mon analyse, mais je prendrai juste un simple élément. Vous savez, lorsque vous êtes à l'intérieur d'une Assemblée, ce qu'elle fait de mauvais, vous pouvez attirer l'attention des gens là-dessus. Et vous pouvez sortir en informant les citoyens sur ce qui se passe, sur ce qui ne va pas, et mobiliser. Mais quand vous n'êtes pas là, comment vous faites pour avoir une idée de ce qui se passe? Ne serait-ce que ça, je crois que c'est une erreur de refuser de siéger.
Voilà. D'accord. Fais bien.
Bon, maître, avec tout ce qui est en train de se passer là, quand on remonte un peu le passé, est-ce qu'on n'est pas encore en train de créer un Yadema, un autre Yadema? Par exemple, on balise, on boycotte les élections, on laisse la voie pour le parti au pouvoir d'avoir encore plus d'espace. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un autre Yadema? Parce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez un peu les chansons de Unir, pourquoi je pose cette question? Parce que j'ai lu quelques phrases des chansons qu'on chantait à Yadema. Il y a une chanson ici, on dit « Sur ton front, général, il y a des mains de bravoure et de sincérité. »
Pour la bataille économique.
Au soldat
exemplaire, garantit toujours notre paix retrouvée. Nous te soutenons de toutes nos forces.
Est-ce que c'était sincère? Quand vous chantez ça, est-ce que c'était sincère?
Ceux qui ont composé cette chanson ont la sincérité dans la composition. Ils croyaient ce qu'ils disaient. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui, à l'époque, chantait Yadema et qui croyait. Et puis il y a d'autres qui ne croyaient pas. Mais il y a des gens, et il y a une bonne partie de la population togolaise qui y a cru à un moment donné. Qui a cru. Même si on dit que des gens ont été manipulés au départ, à un moment donné, les gens sont rentrés dans l'idée que ça, c'était la réalité. C'est vrai.
Mais
ils ont cru. Bon, maintenant, est-ce que ces choses qui se sont passées dans ces années, on va les accepter aujourd'hui? Ou bien est-ce que le président Faure Gnassingbé va se mettre dans cette dynamique en disant, bon, ok, je suis un demi-dieu? Je ne crois pas. Je crois qu'il est beaucoup plus évolué que ça. Aujourd'hui, le monde est beaucoup plus évolué que ça. Ok? Si on chante ça à un président dans un pays, même dans un pays comme le Cameroun, où le président a fait 42 ans de pouvoir, je ne crois pas que le président lui-même y croira profondément. Vous voyez? Parce que nul n'est indispensable et nul n'est un dieu. Ok? Nul n'est le tout. Nous ne sommes qu'un microcosme par rapport au macrocosme que Dieu représente. Donc je ne crois pas que on va créer. En tout cas, si le président Faure Gnassingbé devait se comporter comme ce qui s'est passé dans les années 70-80, ce n'est pas quelqu'un qui l'aura créé. Et je ne crois pas qu'il ira dans ce sens-là. Bon, personnellement, je ne crois pas qu'il ira dans ce sens-là.
D'accord. Maître, les sénatoriels, c'est demain, le 15 février. Ça a été annoncé, bien sûr. Quand on parle alors du Sénat, l'ancienne constitution même d'ailleurs l'avait prévu. Et aussi celle-ci, la nouvelle aussi l'a prévu. Et les pas sont franchis pour que déjà demain, qu'il y ait ces élections sénatoriales. Alors, Maître, pour le processus alors de ces sénatoriales, comment vous l'appréciez?
Non, le processus se déroule normalement. Je crois que le processus se déroule normalement. Pour le moment, je n'ai pas l'impression qu'il y a un travestissement du processus. Ce que j'ai compris, c'est que un certain nombre de partis politiques de l'opposition ont refusé de participer. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont refusé de participer que le processus est travesti. Je crois que certains ont été surpris parce que les élections... Toute la marche de la 5e République est venue très vite. Des gens ont été surpris. C'est normal que des gens soient surpris. Mais de là à dire que le processus se passe de façon négative, je ne crois pas. Maintenant, quand il y aura les élections demain, le 15, quand il y aura ces élections, la manière dont la marche ou bien le comportement dans les urnes, le processus des urnes se passera, on verra aussi ce que ça donnera. Mmh. Et en ce moment-là, on peut dire si des choses ont été tronquées, s'il y a eu des fraudes et autres. Mais pour le moment, je crois que la marche suit un processus normal.
D'accord, oui, maître. C'est vrai qu'il y a certains partis politiques qui ont des positions bien tranchées hein, sur ces questions lors des sénatoriales. Et finalement, au même moment, au sein même d'ailleurs de ces partis politiques, on a vu des membres et même des membres fondateurs de ces partis politiques qui ont fait défection par après parce qu'en adoptant une autre position. Et on a vu également l'ascension de ces partis politiques. Comment vous appréciez cela?
Oui, c'est la preuve que les gens sont fatigués. Ok? Les gens sont fatigués d'une certaine attitude. Les gens sont fatigués de certains comportements. C'est bon, l'opposition est nécessaire. Elle est même fondamentale. S'il n'y a pas d'opposition dans un pays, eh bien, malheureusement, les dérives sont extrêmement graves. Mais en même temps, il y a un moment donné où vous ne pouvez pas empêcher certaines personnes de ne pas vous suivre. Vous ne pouvez pas les empêcher de refuser de vous suivre. Et c'est ce qui se passe. Cela veut dire qu'à l'intérieur de ces partis, qui consistaient dans le passé, je dirais, des forteresses, il y a des failles. Ok ? Certains ne sont plus d'accord. Certains préfèrent aujourd'hui aller essayer de je ne dirais pas de participer, mais de concourir à ce qui se passe, de rentrer dedans et de travailler. Et là, je dis, il y a deux attitudes à avoir. Si tant est que ceux qui veulent aller veulent essayer d'apporter un peu de solution, je dirais que les deux attitudes à avoir quand on est dans les, quand on est dans les ténèbres, c'est soit crier et crier pour tester qu'on est dans les ténèbres, ou alors trouver le moyen d'avoir une petite étincelle pour s'éclairer dans les ténèbres. Ok ? Et j'espère que ceux qui veulent aller trouveront cette petite étincelle pour éclairer les ténèbres. Maintenant, il y a d'autres qui veulent protester contre les ténèbres. On peut protester, on peut continuer de protester. Mais si vous pouvez trouver une petite lueur pour éclairer, il faut éclairer. Donc, j'espère que ceux qui veulent aller, c'est ce qu'ils essaieront de faire. Il ne faut pas que demain, ils aient l'opinion contre eux parce qu'ils auront eu des comportements qui donnent l'impression qu'en fait, en y allant, ils sont allés uniquement pour eux-mêmes. Ce que les Togolais appellent, ils sont allés pour leur ventre. Et qu'ils ne justifient pas ce genre de situation par leur comportement. Qu'ils aillent et que véritablement ils prouvent que le fait d'y aller était nécessaire, c'est-à-dire en faisant le travail dont le peuple a besoin. Voilà.
Mais est-ce que là, on ne va pas craindre aussi une certaine transhumance politique ?
Je ne peux pas parler de transhumance politique. La transhumance politique, c'est quand les gens sont dans un parti, ils participent à une élection au nom de ce parti, ils rentrent dans une assemblée, et puis après, ils quittent pour aller. C'est ça la transhumance essentiellement. Mais le fait que des gens veulent participer à des élections, on refuse. S'ils sortent du parti, il n'y a plus de transhumance.
Tout à fait.
Ils sortent du parti ou bien ils sont exclus du parti, il n'y a plus de transhumance. À la rigueur, c'est vous qui les aurez peut-être envoyés dans les bras de l'autre parti. Ou alors, ils seront des indépendants s'ils ont l'esprit assez fort pour pouvoir développer ce qu'eux-mêmes ils ont envie de développer. Sinon, vous les aurez renvoyés et vous les aurez envoyés de l'autre côté.
Maître, c'est quoi la probable configuration du prochain Sénat, selon vous?
Non, le prochain Sénat sera essentiellement unir. Il ne faut pas se leurrer. D'abord, une bonne partie des sénateurs sera désignée par le président de la République. Le président de la République va désigner certainement des gens qui ont de la compétence, qui ont de l'intégrité et autres, mais il va désigner aussi des gens qui ne lui sont pas opposés. S'ils ne sont pas de son parti, en tout cas, ils ne lui seront pas opposés. Et au niveau des élections, l'opposition ayant refusé de participer, ben c'est Unir qui va rafler la mise. Et donc, ce sera une configuration Unir.
Mais avec le régime parlementaire qui est institué maintenant, est-ce qu'il y aura vraiment des débats contradictoires, puisque c'est aussi l'élément fondamental d'un régime parlementaire?
Oui, est-ce qu'il y aura des débats contradictoires? Est-ce que c'est le pouvoir qui refuse qu'il y ait des débats contradictoires après les élections? Si les élections sénatoriales ont été boycottées, ce n'est pas le pouvoir qui empêche. Elles ont été boycottées. Si vous boycottez, ben, c'est que vous avez choisi de laisser les autres faire. Donc, bon, ils feront. Mais, autre chose, je crois qu'un débat contradictoire peut exister même à l'intérieur d'un parti. Un débat contradictoire peut exister. L'essentiel, c'est qu'on ait des citoyens qui soient conscients du fait qu'ils sont investis d'une mission d'intérêt général. Lorsque vous êtes conscient que vous êtes investi d'une mission d'intérêt général, le débat contradictoire est facile. Ce qui ne va pas, vous le dites. Ce qui va, vous le dites. Ce qui n'avance pas, ce qui ne permet pas le bien-être de vos concitoyens, ce qui ne va pas dans l'intérêt général, vous le dites, même si vous êtes dans un parti politique qui gouverne. Mais lorsque vous ne vous sentez pas investi de cette mission et que vous pensez que vous êtes là pour vous-même ou uniquement pour votre parti ou pour votre ethnie, vous ne faites pas ce débat contradictoire. Le débat contradictoire peut commencer même dans un parti. Et on peut discuter, échanger un certain nombre de choses. Voilà.
D'accord. Moi, je voudrais poser une question. Sur le plan électoral, maître, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le système, dans les années peut-être au XXe siècle et aujourd'hui, le système avec les résultats des élections, on peut parler de fraude, les gens critiquent toujours le système avec des fraudes, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que le système gagne en points avec les élections?
Oui, à partir du moment où vous parlez de fraude, mais vous n'arrivez pas à faire triompher votre position devant les juridictions pour que la fraude éventuelle soit corrigée, bon, c'est le parti contre qui vous pestez en parlant de fraude, c'est lui qui continue. Et puis de deux, c'est vrai que si on fait des élections pour lesquelles l'opposition est absente, et c'est le parti au pouvoir seul qui participe à ces élections, nécessairement le parti gagne. Hein. Le parti gagne. Parce que si vous avez une assemblée nationale avec 99% du même parti, c'est ce parti qui va avoir toutes les discussions, qui va faire voter les lois, qui va faire voter le budget, c'est lui qui gagne. Mais si vous êtes dans ce Parlement, même si vous n'êtes pas nombreux, peut-être que vous pourrez faire changer certaines choses. Il y a des choses, par exemple, dans notre budget que personnellement, je trouve inadmissibles. Que l'opposition aurait pu contribuer à discuter et éventuellement, parce que, vous savez, il y a des débats qui finissent par déboucher sur des votes qui ne sont pas forcément en faveur du parti au pouvoir, hein. En tout cas, qui peuvent faire infléchir certaines positions. Ok ? Mais si vous n'êtes pas là, et que c'est la même voix qui continue, c'est la seule voix, alors l'Assemblée devient une caisse d'enregistrement. Et à ce moment-là, vous n'avez rien. Et comme vous l'avez dit, au fil des années, on a l'impression qu'avec les élections, le pouvoir en place gagne.
Oui, mais on va s'intéresser à cette déclaration du ministre alors des Affaires étrangères. Tout récemment, on l'a suivi quand il parlait même d'ailleurs d'une probable adhésion alors du Togo à l'AES. Et il disait même d'ailleurs que quand on questionnerait les Togolais, pratiquement 70% des Togolais pourront donner la réponse à l'affirmatif pour dire que oui, justement, le Togo pourra faire l'adhésion. Alors, maître, est-ce que vous êtes aussi pour une adhésion du Togo à l'AES?
D'abord, nous n'avons pas la même configuration que les pays de l'AES. Okay? Ne serait-ce que sur le plan géographique, l'AES, ça signifie ce que ça signifie, hein? Alliance des États du Sahel. Okay? Le Togo a peut-être une partie qui approche le Sahel, mais le Togo n'est pas dans le Sahel. C'est l'Alliance des États du Sahel. À moins qu'on ne lui change de nom, le Togo ne peut pas adhérer à l'AES. Deuxième chose, le Togo peut avoir des relations avec l'AES. Et le Togo en aura, essentiellement sur le plan économique. Parce que les pays de l'Interland qui constituent aujourd'hui l'AES ont besoin d'une ouverture sur la mer. Et le Togo en a. Et nous avons un port des plus performants, même s'il n'a pas réussi à contribuer à notre budget. Nous avons l'un des ports les plus performants, en tout cas dans les pays en développement, nous avons l'un des ports les plus performants. Ils auront besoin de nous. Ok ? On aura des relations avec eux. Ce sont nos frères, des commerçants viendront de là, des citoyens viendront de là, des citoyens de chez nous iront là-bas. Ok ? Mais dire que le Togo va aller adhérer à l'AES, je n'y crois pas. Et je pense que le ministre lui-même, il n'y croyait pas fondamentalement. Surtout aller jusqu'à dire que 70% des Togolais, je ne sais pas par quel baromètre, il a pu aboutir à 70% des Togolais qui voudraient adhérer à l'AES. Je crois que, bon, peut-être dans l'enthousiasme, il a eu des propos, mais qui ne sont pas aussi évidents que ça. Ce qui est sûr, c'est que le Togo ne doit pas refuser d'avoir des relations économiques avec l'AES. Okay? On a une situation devant laquelle on se trouve aujourd'hui. Mais il faudrait faire avec. Et le dernier point, c'est que le Togo va adhérer à l'AES en quittant la CEDEAO. Comment? Nous sommes fondateurs de la CEDEAO. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est EADEMA qui a porté ce projet de Sylvanus Olympio vers le Nigeria. C'est EADEMA qui l'a fait, qui a eu le mérite de le faire. Et nous avons était initiateur de la CEDEAO, qui existe aujourd'hui, avec ses défauts et ses qualités. Mais beaucoup plus de qualités que de défauts. Hein. Si on enlève le plan politique, la CEDEAO, c'est beaucoup d'opportunités, c'est beaucoup d'avantages. Alors, nous allons laisser la CEDEAO pour aller à l'AES, je ne crois pas.
D'accord. Oui, maître, c'est vrai que dans une autre déclaration, et ça c'est avec Dr. Velay, tout récemment lors de 140e anniversaire de la conférence alors de Berlin, le ministre des Affaires étrangères donnait toujours encore une autre déclaration parlant surtout de l'Afrique. Il disait que l'Afrique mérite aujourd'hui alors du respect et que l'Afrique n'a point besoin même d'ailleurs d'aide ou nous n'avons plus besoin d'aide, c'est l'expression utilisée. Alors finalement, comment vous analysez aussi ces propos, maître?
Il faut qu'on arrive dans une situation où on n'a plus besoin d'aide. Il faut. On ne peut pas gouverner un pays avec de l'aide. On ne peut pas se développer avec de l'aide. Depuis quand vous avez vu un pays qui reçoit de l'aide se développer? Si l'Afrique doit se développer, elle doit ignorer, oublier, commencer par oublier cette idée d'aide-là. Il faut que nous commencions par compter sur nos propres forces, que nous utilisions nos ressources de façon à ce que nous puissions nous développer, nous puissions créer de la richesse, nous puissions créer du bien-être. On ne va pas rester tout le temps. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, où le président Trump arrive au pouvoir et puis il coupe toutes les aides de l'USAID pour les pays. Mais attendez, pendant combien de temps on va vivre ça? On va être là, un président va venir demain, il va nous donner l'aide de l'USAID, et puis un autre va venir après, il va couper l'aide. Mais dans quelle incertitude nos pays vont vivre en étant en train de tendre la main constamment? Il faut qu'on arrête. Nous avons des ressources chez nous, aussi bien humaines, naturelles, nous les avons. Et nous pouvons nous aussi nous développer. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de la Corée du Sud. Elle n'a rien dans son sous-sol. Elle est aujourd'hui 5e puissance économique du monde. Alors pourquoi la Corée du Sud, en 1956, au moment où le Ghana prenait son indépendance, on comparait le Ghana et la Corée du Sud. Le Ghana a tellement de richesses et tout le monde était persuadé qu'en quelques années, le Ghana serait de loin devant la Corée du Sud. Aujourd'hui, la Corée du Sud est là où le Ghana ne peut même pas aller discuter, ni même aller quémander. Ce n'est pas normal. Il faut que nous aussi, ce sentiment-là de développer, ce sentiment, cette vision de faire évoluer nos pays, nos peuples, nous anime et qu'on commence à faire quelque chose de nos pays plutôt que de rester à attendre toujours qu'on va nous donner de l'aide, et l'aide qui d'ailleurs, la plupart du temps, ne rentre que dans la poche de certaines personnes. Il faut qu'on arrête ça. Et sur ce plan-là, ce que le ministre a dit, je crois que c'est fondamental. L'Afrique doit cesser de compter sur les aides de gauche et de droite et se concentrer sur elle-même, se développer à partir des ressources qui sont là.
D'accord.
Je vais juste poser une dernière question. Oh, oui. C'est par rapport à votre livre. L'actualité, c'est qu'on a organisé un colloque international consacré au général Yahya Demba et les gens lui ont envoyé toutes les éloges possibles. Mais dans votre livre, vous avez dit que les Togolais avaient malheureusement trop tôt qualifié le général Yahya Demba d'idiot, d'intelligent. Et en lisant cette partie, vous avez parlé de la lucidité, de l'intelligence d'Yahya Demba. Je voudrais parler de la page 52. Est-ce qu'il était intelligent, Yahya Demba?
Yahya Demba est extrêmement intelligent. Vous voyez quelqu'un dont on vous dit qu'il n'a fait que la troisième classe de l'école primaire venir gouverner un pays pendant 38 ans? Si vous dites qu'il est idiot, ça veut dire que vous êtes plus idiot que lui. Je ne vois pas comment un idiot peut vous conduire pendant 38 ans. Et c'est ce que je disais dans ce livre-là. Je dis, mais ceux qui injurient l'intelligence de Yahya Demba confondent quelque chose. L'intelligence n'est pas la connaissance livresque. L'intelligence est différente de la connaissance livresque. Yahya Demba a utilisé les esprits les plus éclairés de ce monde-là pour son propre bien, pour son pouvoir. Il a réussi à retourner ceux qui étaient les plus radicaux contre lui dans ces années de pouvoir. Il a réussi à manipuler les blancs, tout le monde. C'est-à-dire, ce monsieur, il a ce qu'on appelle l'intelligence du pouvoir. Il a la ruse. Il a ce qu'on appelle chez nous Apemenouna, la connaissance de la maison, qui n'est pas la connaissance de l'école et la connaissance livresque. Yahya Demba n'a pas la connaissance livresque, hein, mais dire que Yahya Demba est inintelligent, c'est s'injurier soi-même. Je ne ferai pas ce genre d'injure à l'intelligence de mes parents, ni de moi-même. Un monsieur qui a réussi à vous gouverner pendant 38 ans, nécessairement, il a une certaine dimension. Et Yahya Demba a des dimensions. Et quand les gens font des colloques et qu'ils font des éloges à Yahya Demba, on peut faire des éloges à Yahya Demba dans certains domaines. il a ses défauts, il a ses qualités, c'est un être humain. Il y a des mains, beaucoup de qualités, il y a des mains, beaucoup de défauts aussi. On peut citer ses défauts, on peut citer ses qualités.
D'accord. Merci beaucoup, maître. Maintenant, je sais que vos concitoyens vous ont écouté pendant pratiquement une heure de temps. Nous allons maintenant leur donner aussi la parole puisqu'ils ont des questions forcément à vous poser. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler puisque nous sommes toujours avec Maître Jean Yaovi Degli et premier auditeur en ligne. Allô?
Bonjour.
Bonjour Basile, comment vous allez?
Tout goulagement.
D'accord.
On salue Maître Degli. Oui, je vous salue. Vos confrères en studio là-bas. Et moi, je vais demander quelque chose de très simple.
Oui.
Qu'est-ce que nous devons retenir de l'intelligence de l'ancien président défunt, père de l'actuel, et l'opposition qu'on dit qui boycotte, c'est une grave erreur. On doit retenir quoi pour que le Togolais vit bien? Ou bien comment? Je ne comprends pas. Il y a 58 ans, on vit ça. Qu'est-ce que nous devons retenir?
D'accord.
Ceux-là font toujours bien. Donc, il n'a pas m'expliqué un peu. Qu'est-ce qu'on doit retenir?
Ok, merci.
In fine.
Merci beaucoup, Basile. Okay. La question sera posée tout de suite à Maître Degli. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez?
Je vais bien, c'est Batawila.
Batawila.
Oui.
Vous nous appelez.
Je vais demander à maître.
Oui, vous nous appelez de quel quartier?
Sénateur, est-ce qu'il va accepter siéger? Je vous remercie.
D'accord, Batawila. D'accord, merci. 90-86-35-35.
Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir. Comment vous allez?
Je vais pas mal.
D'accord. Oui, allez-y.
S'il vous plaît, j'aimerais poser une question à l'invité. Et c'était quand il parlait de côté politique de l'ancien président. Et comment il juge le massacre de 1992 à Faux-Jardin? Est-ce que, malgré ce massacre, on peut encore oublier tout ça et dire que le monsieur-là, il a tout bien fait? C'est ma question.
Merci. D'accord. Merci beaucoup. 90-86-35-35. Allô?
Oui, bonjour, grand frère. Bonjour. Papa, professeur. Je me nomme Benoît, je vous appelle d'accord.
Oui, Benoît, allez-y.
Moi, je voulais dire un sincère merci à votre invité. Merci beaucoup. Au revoir.
D'accord, merci. Merci pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oh, je vais bien, c'est Évangéliste Senghor. Hein?
Oui, Évangéliste Senghor.
C'est Gali, non?
Non, Maître Degli.
Degli, voilà. Mon frère, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Comment vous allez?
Ça va, merci.
Merci beaucoup pour votre exposition. Bon, le bilan de mon frère, mon papa, mon grand-père, Yadema et Foya Sindé. Ne voyez-vous pas qu'il y a une grande différence? Pourquoi je dis ça? Au temps de Yadema, durant les 20 ans de Fonya Singe, il n'a pas pu mettre la main sur quelqu'un, les détourner des délais publics. Mais au temps de Yadema, tu prends 1 million, il prend son téléphone, il t'appelle de venir le voir à l'homme de. Vous ne voyez pas ça, monsieur Degli? Hein? Au temps de Yadema, quand tu prends de l'argent, hein, il t'appelle de venir le voir, soit tu es au Ghana ou bien tu vas aller, pour être en prison. Mais au temps de mon frère Yadema, son fils, de Fonya Singe, mais vous-même en tant qu'un maître, un huissier, mais qui Fonya Singe a quand même arrêté durant les 20 ans? Bon, deuxièmement, la reine de Yadema, c'est vous l'opposition, les gens des cocotiers, qui ont pu, quand même, parce que vous venez de dire tout à l'heure que vous avez pu convaincre Yadema, il a mis des voitures administratives, vous avez parti négocier avec Gilles Soline qui est autre là. Mais vous ne voyez pas que la personne a une très bonne intention. Mais c'est que c'est Dieu, la Bible dit, hein, avec un évangéliste, il dit, il n'y a aucune autorité qui n'a été instituée si ce n'est pas par Dieu. Maintenant, Dieu voit la mentalité que vos collègues avaient. C'est pour cela qu'aujourd'hui, cette conférence nationale est là, ça capote. Je m'arrête ici.
D'accord. Que merci beaucoup, Evangéliste Senghor, 90-86-35-35.
Allô? Oui, Benoît d'accord.
Oui, Benoît.
Je voulais dire, et c'est vrai ce que le monsieur a dit, notre confrère a dit. Si ce que l'opposition en 2017, là, avec 2018, au moment de quitter Amsterdam, ils sont partis discuter avec le parti au pouvoir. Ils ont demandé une amnistie et pour le régime unir et s'asseoir, redémarrer. Parce que l'UNI ne peut pas organiser un référendum pour le régime parlementaire. Parce qu'il a su, il a examiné. Pour être dirigeant, il faut être organisé, comme il y a des mains. Et Sylvanie, celui qui n'a pas su. Et bon, je vais dire qu'il y a des mains après le son sur la vie de Sylvanie, celui qui merci.
D'accord. Et merci, Benoît. 90-86-35-35-91-36-63-75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô.
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, je salue votre invité.
Oui, votre nom c'est?
C'est Monsieur Vincent.
Pardon?
Monsieur Vincent.
Monsieur Vincent, vous nous appelez de quel quartier?
De Blencombe et Tati.
Blencombe, allez-y.
Ok. Merci beaucoup. Et je remercie votre invité. Et je suis d'accord de là où il a parlé de président Eyadema, qui, malgré qu'il n'a pas été à l'école, il a su gouverner pendant 38 ans. Et je lui remercie de là. Maintenant, ce que j'aimerais poser comme question, son fils qui a été instruit, disons, est-ce qu'il n'était pas. Et prendre du côté positif de son père qui n'a pas été instruit et savoir gérer le pays.
D'accord. Ok, merci. Merci, monsieur Messin. Nous allons recevoir notre dernier auditeur. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui. Allô?
Bonjour, le plateau.
Oui, bonjour. C'est monsieur Mahouto, c'est ça?
Monsieur Mahouto.
D'accord.
Maître de Gris, le Togo est une république. Vous, les hommes de droit et les grands professeurs, vous avez resté complices à ces dirigeants togolais. Ils ont gouverné le Togo.
Monsieur Mouto, si vous avez une question à poser, posez directement la question, s'il vous plaît.
J'en viens. Les hommes de droit du Togo ont été toujours restés complices au peuple togolais. C'est eux qui aident les gouvernants togolais à changer chaque fois les constitutions. Et maintenant, ils viennent nous dire que l'opposition fait. Quelle erreur de la part de l'opposition.
D'accord, ok. Merci beaucoup, M. Mouto, pour votre question. Maître, nous allons revenir en plateau pour répondre aux questions des uns et des autres. Il y a Basile qui posait la question de savoir, ça a été dit dans le livre, dans votre livre bien sûr, que Eyadema est un homme intelligent. Et aujourd'hui, que retenez concrètement lors de cette intelligence?
Je crois que peut-être qu'il aurait intérêt à lire le livre de ce dont on a parlé. Je ne vais pas lui refaire le résumé de tout le livre. On a parlé longuement de comment Eyadema a réussi à se maintenir au pouvoir. C'est de ça que moi j'ai parlé. Et j'ai dit que Eyadema a été quelqu'un d'intelligent. Que retenir de cette intelligence? Cette intelligence a fait que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Cette intelligence de Eyadema a fait que ce monsieur nous a gouverné alors qu'on a cru que quand il arrivait en 1967 que ce serait une affaire de quelques mois ou de quelques années, mais il a gouverné et il nous a mené jusque là où nous sommes aujourd'hui. C'est quelque chose. Donc il faut retenir de cela le fait que quel que soit celui qui est en face de vous, vous ne devez pas le mépriser et vous devez prendre vos dispositions parce que le jour où vous pensez que votre vis-à-vis est inintelligent, eh bien vous devenez un homme idiot vous-même. Parce que toutes vos réactions vont tenir compte du fait que l'autre n'est pas intelligent. Alors que si vous lui donnez la qualité d'intelligence nécessaire, vous allez développer votre intelligence pour contrer ce qu'il va faire. Ce que je tire de l'intelligence de Yadema, c'est que le Togolais doit se mettre dans l'intelligence supérieure pour pouvoir contrer un certain nombre de choses quand nous sommes en face.
D'accord, maître, si vous êtes donné ou s'il est arrivé que le président de la République vous nommait sénateur, est-ce que vous l'auriez accepté?
D'abord, je voudrais dire que la deuxième partie de la question de M. Basile disait si le Togolais vit bien. Qui lui a dit que le Togolais vit bien? Qui a parlé de Togolais vit bien? Moi, je n'ai pas parlé de Togolais vit bien. Je porte toujours des critiques et je m'adresse toujours à des autorités pour qu'on améliore le sort du Togolais, pour que le bien-être soit partagé, pour que le bien-être ne reste pas dans une famille, le bien-être ne reste pas dans les poches de ceux qui gouvernent, pour que le bien-être ne reste pas dans un parti, qu'il ne reste pas dans une région, dans une ethnie. Je me bats pour ça. Je me bats pour ça. Et je me bats tous les jours pour ça. Et les autorités ils le savent. Si on leur demande, ils le savent. Le nombre de fois que j'interpelle pour qu'on puisse faire en sorte que la gouvernance profite à tous les Togolais. Alors, personne ne dit que le Togolais vit bien. Même les pays qui sont les plus riches, les plus développés, les citoyens considèrent qu'ils ne vivent pas bien. Même aux États-Unis, que le président Trump veut faire « grit again », les gens considèrent qu'ils ne vivent pas bien. Alors, je ne sais pas qui lui a parlé de Togolais qui vivrait bien. Maintenant, si le président de la République me désignait sénateur, vous savez, j'ai été ministre à 28 ans. Je n'ai pas demandé à être ministre. Mais à un moment donné, si j'ai accepté, c'est parce que j'ai été convaincu par celui qui voulait me nommer qu'il y a une tâche qu'il faut que tu viennes remplir pour le bien-être des Togolais. Si je suis convaincu, si je suis persuadé que je vais poser un acte qui va aller dans l'intérêt des Togolais, ne serait-ce que dans l'intérêt de 1 à 10 Togolais, je poserai cet acte-là. Et c'est toujours ce que j'ai dit. Quand on me dit « on va vous nommer ministre, on va vous nommer Premier ministre », je dis « si le poste auquel on voudrait que je sois permet d'apporter quelque chose à mes concitoyens, je le ferai et je me ferai donner toutes les clés pour pouvoir apporter ce bien-être-là, ce minimum-là à mes concitoyens. Si tel n'est pas le cas, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'être sénateur, d'être ministre ou d'être quoi que ce soit pour pouvoir manger. Je fais mon travail et Dieu me donne ce qu'il me donne, le pain quotidien, il me le donne. Ça me suffit largement. Je ne me coucherai pas dans 10 lits dans une même nuit. Je ne me coucherai pas dans 3 chambres dans une même lit. Je n'ai pas besoin de 10 véhicules pour aller de ma maison à mon boulot. J'ai besoin juste du minimum. Maintenant, si je peux faire quelque chose dans le cadre de la nation qui apporte le bien-être, je le ferai, à condition qu'on me persuade et que j'en sois convaincu.
D'accord, maître, qu'est-ce que vous pensez alors du massacre de Fréau-Jardin?
Le massacre de Fréau-Jardin, je l'ai dénoncé largement dans mon livre dont nous sommes en train de parler. Ce n'est pas parce qu'on a dit que Yadema est intelligent que s'il y a eu massacre, on a dit que donc le massacre est bon. Je crois que les Togolais doivent cesser d'avoir des réactions et des comportements épidermiques. Il faut éviter ça. On fait une analyse, on vous dit celui qui est en face de vous, il est intelligent. Vous dites le massacre là, mais est-ce que j'ai dit que c'est parce qu'il est intelligent qu'il a fait le massacre? Mais l'intelligence peut revêtir aussi des aspects diaboliques. Hein? Et parce qu'on est intelligent, on peut faire des choses diaboliques. Le fait de dire que quelqu'un est intelligent ne signifie pas qu'on applaudit un acte négatif que la personne a posé. C'est sur la base de ce qui s'est passé en janvier 93, notamment de massacre, que moi, j'ai pu constituer une armée de Togolais pour venir combattre Yadema. Et ils ne le savent pas. Donc, je crois que le fait de massacrer et le fait de dire que quelqu'un est intelligent, je ne sais pas quel rapport il y a entre les deux. Je crois qu'ils se trompent de combat et ils se trompent de débat. Que Yadema soit quelqu'un d'intelligent parce qu'il a réussi à manipuler, à changer, à passer entre toutes les mailles du filet pendant 38 ans, c'est une chose. J'ai toujours dit qu'il y a des qualités, mais il a aussi beaucoup de défauts. Qu'il ait des défauts, ça ne veut pas dire que non, que comme il est intelligent, on doit applaudir ses défauts. Je regrette.
Maître, il y a Evangeliste Senghor qui parlait de la différence entre le bilan des deux chefs d'État, c'est-à-dire Gnassingbé Yadema et aussi de Faure Gnassingbé.
Oui, bon. Ce que Yadema a fait, il a fait à une certaine époque donnée. ce que Faure Gnassingbé est en train de faire aujourd'hui, le fait à une époque donnée. Et Faure Gnassingbé n'a pas fait arrêter des gens qui détournent. Je crois qu'il doit le faire. Mais on ne va pas réduire le bilan de Faure Gnassingbé à l'arrestation des gens qui détournent ou bien de la corruption. On ne peut pas réduire le bilan de 20 ans de Faure Gnassingbé au fait qu'il n'a pas fait arrêter des gens. Il est nécessaire que Faure Gnassingbé fasse rendre compte à tous ceux qui pillent l'État. Et je crois que lui-même n'est pas content de ça, puisqu'à un moment donné, il a parlé de la minorité pieuse dans ce pays. Il n'est pas content. Il faut qu'il oblige ces gens-là à rendre compte et à rendre gorge. Mais de là à réduire le bilan de 20 ans de Faure Gnassingbé au fait qu'il n'a pas pu faire arrêter des gens qui ont détourné, je ne crois pas.
D'accord. Monsieur Messin, selon lui, c'est vrai, on a parlé alors de l'intelligence, alors de l'ancien président et Adema, qui déjà n'a pas fait longues études, mais et aujourd'hui avec son fils qui a fait de longues études, les choses devaient être améliorées selon lui.
Je crois que on prend toujours quelque chose de quelqu'un et puis on améliore. C'est vrai. Faure Gnassingbé a beaucoup plus, sur le plan intellectuel, a beaucoup plus de cordes à son arc que son père. Je crois que Faure Gnassingbé, dans sa gouvernance, doit tout faire, et je le dirai toujours, pour que le Togolais ait le bien-être. Nous sommes à une époque où on ne peut plus continuer de gouverner et de gouverner juste en l'air. Il doit avoir une vision claire et il doit mener les Togolais pour que chacun ait le bien-être. C'est très important. Et pour ça, il n'a pas forcément besoin de prendre son père d'abord. C'est une nécessité. C'est une obligation pour lui. Lorsqu'on gouverne, on gouverne pour ça. On ne peut pas gouverner pour que le bien-être reste dans sa propre maison. On gouverne, on a un pays. Les richesses doivent servir à ce pays. Le bien doit servir à ce pays. Et on doit pouvoir apporter le bien-être dans chacune des maisons. Et j'espère que d'ici que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir au Togo, il aura essayé de faire le maximum pour que au moins un certain nombre de Togolais ou la majorité des Togolais voient le bien-être venir dans leur marmite.
Maître, sur notre compte WhatsApp, il y a beaucoup de questions bien sûr qui vous sont aussi adressées. Et il y a notre compatriote Maglibé qui se trouve en Belgique qui vous pose la question d'abord et vous salue et vous félicite également pour le débat et vos réflexions menées. Et il pose la question, c'est quoi un intellectuel dans le contexte actuel de notre pays, le Togo, Maître?
La définition d'un intellectuel, il n'a qu'à retourner au dictionnaire pour l'avoir. L'intellectuel, c'est celui qui a une instruction jusqu'à un certain niveau. Okay? Quelqu'un qui s'est arrêté à l'école primaire, on ne l'appelle pas un intellectuel. Aujourd'hui, même quand vous vous êtes arrêté uniquement au bac, on ne vous appellera pas un intellectuel. Hein? C'est quelqu'un qui a un certain niveau d'éducation et qui peut discuter de certaines choses qu'on appelle un intellectuel. Et ce n'est pas au Togo seulement qu'on peut avoir ces intellectuels-là. On l'a partout. Bon, maintenant, il y a des gens qui s'improvisent intellectuels comme des gens qui s'improvisent politiciens. Mais il faut noter qu'un politicien, ce n'est pas un intellectuel. Un intellectuel, ce n'est pas forcément un politicien. Il y a des gens qui ne sont pas intellectuels, mais qui sont des politiciens. Et justement, le cas de Yadema. OK?
D'accord. Oui, mais Maglibé, continue. Hein. Quelle est votre position actuelle vis-à-vis alors de l'état actuel de la République?
Non, l'état actuel de la République nécessite beaucoup d'amélioration. Je l'ai toujours dit. On est dans une situation qui n'est pas des plus enviables. Okay? On a encore beaucoup de poches de pauvreté, beaucoup de poches où les infrastructures n'ont pas atteint. On nous montre toujours, jusqu'à aujourd'hui, des écoles qui sont dans certains de nos villages qui sont... C'est une catastrophe. On nous parle de manque d'eau dans certains... On doit pouvoir aller... Le pouvoir, ceux qui gouvernent doivent pouvoir étendre leurs mains vers tous ces domaines-là. Il faut que la gouvernance apporte le bien-être aux Togolais. C'est fondamental. Et je le dis toujours, celui qui gouverne, c'est comme celui qui donne de la nourriture à un enfant. On ne peut pas l'empêcher de se lécher les doigts, mais on ne peut pas lui permettre de manger la nourriture de l'enfant et de donner les doigts à l'enfant à lécher.
D'accord, voilà. Maître, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin?
Mon mot de la fin, c'est que... Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle situation, avec une nouvelle constitution, avec une nouvelle république. J'espère que dans 5-10 ans, nous sortirons en disant qu'il y a eu une amélioration. Parce que l'intérêt de tout ce que nous faisons en politique, c'est ça. Et avant tout, c'est ça. Que le bien-être atteigne tous les Togolais et que la terre de nos aïeux se ressente mieux. Merci.
Merci beaucoup, maître Jean Yaovi. Merci d'être passé alors dans cette émission. Merci à vous, Firmé Tako Agbo, de m'avoir accompagné dans cette émission.
Merci, ça a été un plaisir.
Justement,
je suis honoré. C'est la première fois que je partage un plateau avec maître Jean Yaovi. Alors, je voudrais vous dire merci.
Le plaisir est partagé. Merci beaucoup, maître. Merci surtout pour la disponibilité, parce que nous savons les tractations quand même que nous avions eu à faire avant, quand même que vous ne venez. Merci beaucoup pour cette disponibilité. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui avez aussi avez posé des questions au cours à l'heure de cette émission ou vos interventions. Merci à vous tous. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dacoute était à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Au revoir.